Nous sommes le lundi 19 décembre et vous écoutez le 18e épisode de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société. Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. LudicBazar.com, c'est le choix, les prix, la qualité et plus de 14 000 références en stock. Du discount, du neuf et de l'occasion. Salut les joueurs, salut les joueuses et salut Jérémy.
Salut Olivier.
Ça va ?
Très bien.
Bah oui, c'est Noël.
À bientôt.
Est-ce que tu as reçu autant de colis que moi ?
Le mien, il est en route. Il devrait arriver demain.
Bon, parce que là, j'ai une nouvelle armoire chez moi pour mettre des jeux en exposition pour les avoir pour les enfants à portée de la main, pour pouvoir y jouer un peu plus souvent. Et je l'ai garni. Il y a du tourné, il y a...
Ah, alors... c'est bien pour les enfants.
Oui, non mais il n'y a pas que... Il y a Kingdom Builders, que nous avons déjà inauguré. Il y a aussi la première extension Asie que tu m'as fait acheter, parce qu'on nous reproche souvent qu'on vous fait acheter, mais c'est pas... En fait,
entre nous, ça marche aussi beaucoup. Ouais.
Donc voilà, c'est super classe. Je remercie mon papa Noël de Trick Track qui m'a envoyé un Gloire de Rome et un Onirim. Et j'ai pas tout compris pour la Gloire de Rome. J'espère que tu vas m'expliquer comment ça marche parce que ça m'a l'air un petit peu compliqué.
Il faut faire la première partie.
Voilà, c'est ça.
Après, c'est bon.
Donc une fois les règles. Bon, les règles, je les connais. En fait, c'est plutôt la mécanisme de jeu qu'il faut que je mette en place. Donc voilà, je suis très content. Et c'est bientôt Noël. Et ça, c'est bien.
Ça se trouve, quand vous écouterez, ce Noël sera passé.
Voilà, il faudra pas. Il faudra nous excuser, ça sera peut-être déjà passé. On vous aura à peine souhaité un bon Noël. On y va, Jérémy ?
Bah, je t'attends.
Eh ben, allons-y. Alors, aujourd'hui, Jérémy, de quoi on va vous parler ?
Cette fois-ci, on va parler des oubliés de l'année. On va vous parler de petites goodies, on va sans oublier bien sûr les Kickstarter, et puis nos classiques Rallyman et Seigneur des Anneaux.
Ouais, le JCE.
Voilà.
En termes de jeux plus importants, Jérémy va vous faire une review de Power Grid The First Sparks.
Ensuite, on enchaînera sur quelques événements, notamment en Belgique. Olivier nous fera un petit retour sur le Bargaming... la semaine dernière.
Le Hasbro Paris Tour.
Voilà, où il a testé Bop It. Et puis ensuite, des écrans plutôt légers ce soir, avec quelques news. Et la revue rapide du jeu Aztec, fraîchement débarqué sur iPad.
Et puis éventuellement, on tirera au sort les 5 gagnants du concours Steam Torpedo.
En live.
On va commencer par les actus, on parlera de notre concours, où je sais que toi, cher auditeur, tu attends de savoir si tu as gagné. Ah bah non, en fait, si tu as gagné, tu le sais déjà, puisque tu as reçu ton mail, donc...
Le paquet qui part dès demain.
Oui, la poste ira plus vite que moi cette semaine.
Ouais.
Donc, cher auditeur, toi qui nous écoutes et qui n'a pas eu ni mail, ni paquet, tu n'as pas gagné, mais tu retenteras ta chance.
Allez, on attaque avec... une nouveauté dans les boutiques dès maintenant disponible, c'est le carnet de campagne volume 2 pour Mémoire 44. Donc, on vous en avait parlé déjà des carnets de campagne quand on vous a parlé de Mémoire 44 la saison dernière. Le carnet de campagne volume 2, ça regroupe 46 nouveaux scénarios répartis sur 11 campagnes. Ça vous emmènera dans le Pacifique, ça vous emmènera en Pologne, en Normandie. Ça vous demandera aussi d'avoir déjà pas mal des extensions du jeu de base.
Comme d'habitude,
mais c'est pas grave puisque de toute façon, si vous l'achetez, c'est que vous aimez ça et que vous avez tout. Plus dur, par contre, on vous demandera aussi pour une campagne l'Air Pack. Donc là, c'est un petit peu plus touchy pour l'avoir. Ouais. Mais a priori, vous pouvez, dans ces cas-là, ce qu'il y a surtout besoin, en fait, c'est d'avoir les règles aériennes, etc. Et ça, vous pouvez télécharger sur le site de Days of Wonder.
Mais on a vu quelqu'un sur leur stand à Essen qui nous a dit que l'Air Pack ne serait pas réédité en l'état.
Ouais, ils sont en pleine réflexion parce que...
Bon, il y aurait peut-être autre chose, hein, faut espérer, parce que c'est quand même sympa d'avoir des petites miniatures comme dans Wings of War.
Ouais, c'était pas ça qui leur pose souci, c'est que dans l'Air Pack, t'as un paquet de cartes qui rappelle les règles. En fait.
Comme dans toutes les extensions.
Dans les extensions, ils viennent compléter maintenant depuis. Mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre des cartes effectivement de l'Air Pack, comme l'Air Pack sorti il y a quelques années, qui ne sont plus à jour. Donc il faudrait déjà qu'ils réactualisent tout ça. Donc c'est un vrai travail. Ouais, ils auront un vrai travail d'édition, tu vois. Bon, on va pas se moquer, hein. Days of Wonder fait un super boulot. Voilà. Alors, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'intérêt des campagnes, c'est que sur une campagne, en fait, elle comporte plusieurs scénarios et les camps ont des objectifs qui vont leur apporter des points supplémentaires. Qui seront totalisés à la fin de la campagne et qui permettra de savoir qui est le vrai gagnant.
Alors, ça veut dire que c'est peut-être un petit peu moins frustrant que de faire un scénario ou un scénario en aller-retour.
Ouais, tu fais pas l'aller-retour sur un scénario parce que du coup, en fait, si je gagne un scénario, je vais avoir un bonus sur le prochain scénario.
Ouais, d'accord.
Ou par exemple, si je prends telle ville, etc., ça me donne un bonus sur le scénario d'après. Donc c'est pas mal du tout. Ça permet en plus de gérer un aspect renouvellement des troupes et un système de renfort, etc. Bon, c'est pas ça. Enfin, je sais pas, ça renouvelle pas entièrement le jeu, mais c'est intéressant. Après, il y en a plein qui trouvent aussi que c'est pas obligatoire parce qu'il y a déjà plein de scénarios disponibles gratuitement en ligne.
C'est ce que j'étais en train de penser. Tu pourras nous mettre sur le site des liens vers des sites ou des forums où on peut trouver des
scénarios. Le site
officiel.
Scénarios.
Le site officiel. Le site mais officiel. On pourra en mettre.
Ah, bah oui, je mettrai
bien. Ok, super.
Donc, les carnets de campagne volume 2. Le volume est épuisé. C'est 30 euros. C'est maintenant disponible dans vos boutiques. Évidemment, les campagnes sont toutes pour 2 joueurs.
Comment ça, elles sont évidemment pour 2 joueurs?
Il n'y a pas de scénario Overlord, etc. dedans.
Ah bon, d'accord, c'est évident. Ok.
C'est évident.
Et cette semaine, puisque vous allez être un petit peu en vacances, je pense et je l'espère, vous aurez la possibilité de télécharger et de lire le fanzine White Flag. Alors, White Flag, c'est un fanzine d'une quarantaine de pages, 40-50 pages. C'est le 11e et celui-là est consacré entièrement à la nouvelle mouture de Sherlock Holmes, détective conseil. Alors, vous allez y retrouver une interview de Cyril Demegle, qui est l'éditeur du nouveau Sherlock Holmes. Et puis, quelques mots de Nériac et de Arnaud Demegle qui ont illustré Sherlock Holmes, détective conseil. Un mot de Jürgen Hertz, qui est le fondateur du Spiel des Jahres, puisqu'on vous l'a dit dans le dernier numéro, Sherlock Holmes a gagné le Spiel des Jahres en 1985. Il va expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, le fin du fin, cerise sur le gâteau, une énigme exclusive de White Flag. Alors, on mettra le lien sur le site, téléchargez-le, il y en a 40-50 pages, il y a vraiment énormément de choses, et aussi en introduction pas mal de choses sur... les séries Sherlock Holmes, les livres, parce qu'il y a énormément de bouquins, d'énigmes qui sont sur le thème de Sherlock Holmes, avec plus ou moins de succès, mais voilà. Enfin, de mon point de vue, Sherlock Holmes, détective conseil, étant le meilleur résultat dans ce domaine-là. Il parle aussi des séries. Je ne saurais trop vous conseiller de regarder la série contemporaine de Sherlock Holmes. Le résultat n'est pas très égal, mais le premier est complètement savoureux. Il raconte la rencontre de Sherlock Holmes avec Watson. Et il mérite vraiment qu'on s'y attarde. T'es paru l'année dernière, on en a peut-être parlé d'ailleurs dans Proxy Jeux. Donc allez-y, White Flag. Alors, et vous pouvez faire un bon PayPal, donc n'hésitez pas. Vous leur dites que c'est de notre part et ça nous fera plaisir.
Et puis en cette fin d'année, avant d'aborder le bilan 2011 qui se fera sans doute dans 2 semaines.
Ouais, au début de l'année 2012, le bilan.
Voilà, c'est pas logique. Ouais. Je voulais revenir vite fait sur 3 jeux que je me félicitais qu'ils étaient annoncés, qu'ils arrivent en fin d'année et tout ça. Mm-hmm. Mais bon, vu l'heure qu'il est, ils n'arrivent pas.
Il est 10h30 et le facteur est déjà passé. Donc
voilà, il reste 12 jours, ça va être difficile. Donc, c'était le retour de quelques anciens, que sont Goa et El Grande chez Philosophia. Alors, je les ai contactés il y a quelques semaines quand même pour savoir où c'en était. J'ai pas reçu de réponse.
Martin, Sophie, si vous nous écoutez.
Voilà, et l'autre, c'était Méditerranée. Que Hystari annonçait pour fin d'année. Bon, finalement, ils ont choisi de nous faire détective conseil. C'est très bien.
Oui, je pense que c'est pas mal. Et c'était très sage de leur part de sortir ça en fin d'année. C'était. Enfin bon, après.
C'est très sage, ça dépend pour qui. Parce
pour
que
eux.
Du coup, ça coûte cher.
Pour eux, je pense que c'est une très bonne stratégie marketing
oui,
de sortir
mieux.
Ça. C'est le cadeau idéal.
C'est mieux que Méditerranée qui, donc, du coup, lui, par contre, aux dernières nouvelles, arrivera début 2012.
C'est ça.
Il n'est pas oublié. Alors que les Philosophia, je suis pas du tout sûr qu'ils arrivent en fait.
Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec la fusion avec Zeman?
Ouais, peut-être que ça a été reporté, j'en sais rien.
Un peu.
C'est dommage.
La ligne éditoriale a dû changer.
Parce que c'est vraiment 2 bons jeux.
Souhaitons que Goa et El Grande n'aient pas disparu complètement du catalogue Philosophia.
Non, je pense pas.
Allez, une brève de saison. Si vous êtes fan de Mushkin ou si vous êtes fan d'Illuminati et que vous avez envie d'envoyer une carte de vœux, eh bien, vous pouvez le faire, vous allez sur le site de Steve Jackson Games et vous aurez des... Alors, c'est un petit peu tard pour vous en parler, mais des petites étiquettes à mettre sur vos cadeaux. Et des cartes de Noël et des cartes de bonne année avec en background soit une petite illustration Munchkin, soit une illustration avec la pyramide Illuminati. Bon, c'est peut-être un petit peu trop tard pour Noël, mais enfin, pour les cartes de Nouvel An, ça sera parfait d'utiliser ces cartes-là.
Et puis un épisode actu pour que si je ne serais pas un épisode actu si on ne parlait pas un petit peu de Rallyman.
Ah, j'ai cru qu'on allait reparler de Seven Wonders.
Non, mais on va parler du JCE Seigneur des Anneaux, mais ouais, je te laisse la primeur.
Bah, c'est l'actu. Hein.
Voilà. Bon, pour Rallyman, c'est pas forcément une vraie news parce que c'est une info.
Alors si, enfin, c'est pas une news, mais c'est de l'actu quand même. Parce que
c'est 2012.
Voilà, c'est ça. Pour une fois, on est à l'heure. contrairement aux petites ouais, étiquettes de Steve Jackson, ouais. On est à l'heure.
C'est ça. Voilà, donc ça, je croyais qu'Olivier allait tout le dire, mais non. Alors, en fait, quelques joueurs passionnés de Rallyman ont eu la bonne idée de vous proposer la World Rallyman Cup. C'est un championnat, ce qui se déroule sur toute l'année, et qui vous propose de rejouer des rallyes en même temps que le championnat du monde de rallye dans vraie voiture, dans des vraies voitures, et vous le rejouez chez vous, avec des amis, donc tout est déjà décidé, hein, vos spéciales, voilà, il y a tout le programme, les dates auxquelles vous devez jouer, etc. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à envoyer vos résultats par le biais d'un formulaire, et ensuite tous les résultats sont compilés ensemble. Il n'y a qu'une seule contrainte à tout ça, c'est d'accepter les 10 commandements de la World Rallyman Cup.
Tu veux dire ne pas tricher, ne pas...
Voilà, la première règle du World Rallyman Cup, c'est du fair play.
Ah.
On a le droit d'en parler, mais c'est c'est le fair play d'abord, bien sûr, en premier.
Les vrais résultats, tu donneras.
C'est ça, je pense. Bon, de toute façon, enfin, après, quand on est joueur, donc bon, tricher, ça n'a aucun intérêt.
Ouais, je pense que c'est plus pour permettre à mesurer son propre score et ses performances par rapport aux autres.
Ouais, c'est ça. Après, on va avoir juste le temps de la personne qui aura fait le meilleur temps sur le truc, mais on l'aura pas vu à l'action, donc on sait pas comment elle aura fait. Parce que c'est ça que je trouve sympa, moi, dans Rallyman, c'est que justement, on a tous notre façon propre de négocier virage. C'est ouais. Ce que toi, t'aimais pas.
Sauf qu'il me semble qu'il y a un forum et que les discussions peuvent se faire sur le forum, je pense.
Ah bah oui.
Oui.
Bien sûr.
Donc si vous êtes intéressé par les sports automobiles, si vous êtes intéressé par Rallyman...
Rendez-vous sur le site de Rallyman. Là-dessus, vous y trouverez les fameux 10 commandements, mais vous y trouverez également les roadbooks avec, du coup, tous les parcours des spéciales qu'on vous demandera de réaliser dans le courant de l'année.
Tu peux t'entraîner comme dans la vraie vie.
Ouais, tu peux t'entraîner, voilà, c'est ça. Et puis même si t'as pas envie de faire vraiment de participer au concours, bah, ça te permet d'avoir déjà des parcours sympas à jouer.
Et puis Jérémy vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. On va encore une fois parler du JCE du Seigneur des Anneaux. Alors, pas que du JCE du Seigneur des Anneaux, on va également parler des Demeures d'Épouvante.
Ouais.
De Warhammer Invasion. Ouais.
Non, je les connais pas.
De Death Angel. Et bien sûr, de Cthulhu. Pourquoi ? Parce que Edge lance l'extension sur demande. Le print on demand, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on avait l'habitude de retrouver le cycle de 6 extensions, puis après l'extension de Luxem Casadum dans sa boutique préférée. Aujourd'hui, on va avoir des extensions supplémentaires. Ça ne se limite pas au JCE du Seigneur des Anneaux. C'est une possibilité que s'offre Edge de sortir des extensions en plus petite quantité. Alors, ça peut être des extensions de cartes, ça peut être aussi des livrets. Ça peut être multi-support, qui sont imprimés en fonction de la demande. Donc ça permet de faire des tirages beaucoup plus petits et qui permettront de multiplier, je pense, les extensions et de faire éventuellement des extensions de fans, des choses comme ça.
Tu as une idée des prix, par contre ?
Oui, Rassemblement à Osgiliath est la première extension on demand pour le JCE du Seigneur des Anneaux. Il est à 15€. Et contrairement aux autres extensions qui comportent 60 cartes, on va en avoir que 45. Donc il est 25% plus cher.
Ouais, mais forcément. Et t'as le frais de port en plus ?
Oui.
Tu l'envoies chez toi ?
Oui, je pense. Ouais.
C'est compris ? Tu sais pas ?
Non, 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 tu as les frais de port en plus.
Et ouais. Mais parce qu'ils n'arrivaient plus à. Ça leur coûtait trop en logistique, ils sont aperçus qu'ils vendaient moins. Tu sais
je ne sais pas, mais je pense que ça, comme je te dis, ça permet de sortir un petit peu du programme, d'avoir une roadmap qui est claire, et puis après, éventuellement, faire des choses un peu plus confidentielles. Ou alors, ça veut dire qu'il y a une vraie. Un vrai revirement de la part de Edge sur sa politique éditoriale et qu'on va avoir de plus en plus de ces choses-là et qui maîtriseront de plus en plus la quantité de cartes éditées. Mais ça, seul l'avenir nous le dira.
Et puis si vous voulez un regard différent sur les aventuriers du rail Europe, vous invite à aller voir un petit article publié sur le blog Praxeo d'Alex Sibeuf, qui est notamment l'auteur justement du guide stratégique de Mémoire 44, qui s'amuse à un vrai découpage statistique. Alors on va dire ça comme ça, mathématique.
Ouais, c'est très technique.
Ouais, technique après, mais toute une analyse de ces options de fin de partie. En sachant qu'à un moment, à l'instant où ils commencent son analyse, ils ont chacun plus que 6 wagons. Il faut aimer. Personnellement, je déteste le jeu quand il est découpé comme ça par des joueurs autour de ma table. Je le dis bien. Ici, quand c'est dans un article, ça peut être un petit peu différent. Mais moi, je trouve que c'est dommage parce que ça enlève justement, je trouve, ce côté.
L'âme de jeu.
Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Ouais.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi, ça me plaît bien. Ça me fait rigoler. Ça me fait penser à Mule et Monnaie, si tu veux, où en fin de compte, on commençait à jouer. C'est un jeu de. Où chaque action a une certaine valeur, et avec une certaine catégorie de personnes, cette valeur, elle était complètement incroyable. C'est-à-dire qu'on faisait n'importe quoi, mais ça marchait. C'est-à-dire que tout le monde faisait n'importe quoi, et tout le monde survendait son action, et ça marchait bien. Et là, en l'occurrence, cet article, il te fait pointer du doigt la vraie valeur des choses et la vraie valeur des actions. Et c'est très technique, mais bon, voilà, quoi. Vous pourrez le lire, il sera...
Gardez en tête qu'on parle des Aventures du Rail Europe, qui est un jeu ultra simple, quand on voit déjà tout le décortiquage, non, la décortication, j'en sais rien, du jeu, bah ça fait peur pour des jeux plus gros.
Voilà. Par exemple, il vous dit que la valeur d'un ticket à 1912, méga jeu, donc c'est avec l'extension, bah c'est 10 fois le nombre de tickets plus 1, moins quelques pourcents. Voilà, ça vous donne un petit peu l'idée de ce que ça peut donner. Vous irez voir ou pas.
Et ouais, puis, c'est les vacances, vous avez du temps.
Vous nous direz. Autre sujet un petit peu récurrent dans le podcast Proxy Jeux, on vous parle assez régulièrement de Kickstarter. Kickstarter, c'est une plateforme qui permet de proposer l'édition de jeux plus ou moins aboutis et qui permet de récolter de l'argent pour permettre l'édition de ces jeux. Dans les premiers numéros, on vous a parlé d'ouloulé.com avec Dissident. Et Kickstarter, c'est le même principe, mais c'est américain et on va retrouver un tas de jeux. On vous a parlé aussi de D&D Dice qui a remporté un très franc succès. Et là, on a plusieurs jeux comme Omen Reign of War, c'est un jeu de baston à la Spartiate. On a Bear Your Fangs qui est un jeu 2D de vampire. On a aussi du jeu éducatif Lunchbox. Puis on a plein de choses. Et je voulais surtout vous parler du Kickstarter qui concerne les dés en chocolat. Et oui, chers auditeurs, vous pouvez donner un peu d'argent pour avoir des dés Donjons et Dragons. Alors, ils attendaient à peu près, enfin, ils voulaient en fait récolter un petit millier d'euros, de dollars, Jésus, des dollars, et ils ont récolté plus de 12 000 dollars. Donc ça marche très très bien pour faire des chocolats. Si tu donnes 2 dollars ou plus, tu supportes, c'est cool. Si tu donnes 15 dollars ou plus, tu vas avoir un set de dés en chocolat avec des dés 4, 6, 8, 10, 12 et 20 faces.
Comestibles.
Ah oui, bien sûr.
Comment tu fais après ?
Alors le problème, c'est de les rapatrier d'Amérique et puis après, tu supportes bien le voyage.
Ça va, c'est l'hiver.
Ouais. Donc après, on peut donner 25 dollars ou plus, 50 dollars ou plus, 60 dollars ou plus. Ça va beaucoup plus haut et à l'image de ce qui a été fait pour D&D Dice, c'est ce qu'on reproche un petit peu au système Kickstarter, c'est la course aux goodies. C'est-à-dire que pour récupérer des investisseurs, il y a de plus en plus de goodies qui sont proposés et on peut faire des lots de 2, 3, 4, mais c'est le petit sac, c'est le dessin, c'est n'importe quelle chose qui va pousser...
Ouais, mais c'est du marketing.
Ouais, mais c'est... là, on est un petit peu dans le travers qui est... on quitte un petit peu le
financement de départ.
Ouais. Il y a une petite polémique là-dessus. Hein, je vous laisserai lire ça sur Board Game Geek. La polémique venait aussi du fait que il y a des jeux qui sont déjà édités et qui ont déjà une chance beaucoup plus importante de faire une vraie carrière commercialement qui arrive sur Kickstarter. Et c'est pas que ceux qui sont
un jeu comme Alien Frontiers a commencé en Kickstarter.
Il y a aussi la réédition de Glory to Rome. Mais là, en fait, on parle pas du jeu, on parle de l'illustration. Non, c'était uniquement l'illustration, en fait. Ah ouais. Le jeu Oui, j'ai même regardé avec des gros yeux, mais bon, quoi, de quoi,
de quoi parle-t-il?
Mais non, bah, je vous mettrai des illustrations de ça. Mmh. Allez voir si ça vous intéresse. Il y a encore 10 jours pour acheter des chocolats et pour investir dans des chocolats Donjons et Dragons. Ouais. Et voilà. Mais le Kickstarter, c'est quelque chose qui marche super bien en Amérique.
En exemple, je voulais montrer, on vous a parlé il y a 2 semaines du Miskatonic School for Girls. Et au moment où on enregistrait, on venait tout juste de passer la limite, le seuil en fait, qu'ils avaient besoin pour démarrer.
C'était combien, 3 000 dollars, quelque chose comme ça?
Non, ils attendaient 11 500 dollars.
Ouais.
Et là, on est à plus de 60 000.
60 000 ?
On est à plus de 60 000.
En 15 jours ?
En 15 jours, ils ont fait 50 000 dollars.
Petite précision au sujet des Kickstarters. Le problème, c'est que les frais de port sont assez élevés. Et en fin de compte, bon, vous pouvez, ça fait plaisir d'aller voir que ce soit les Kickstarters ou que ce soit des P500 chez GMT. Ça permet de pousser un jeu, ça permet de voir des choses un petit peu différentes de ce qu'on peut voir dans l'édition traditionnelle. Ça permet d'aider aussi des gens qui ont des projets, donc c'est super bien. Par contre, sachez que malgré la parité euro-dollar, vous aurez des frais de port qui vont pratiquement doubler le prix de votre achat, et c'est ce qui est un petit peu bête dans ce système. Mais bon, allez-y quand même, ça vaut le coup.
Et puis à ProxyJeux, on aime bien le chocolat, donc... Acheter des petits. Nous, on veut bien les petits dés. Envoyez-les-nous. On vous mettra notre adresse. Hein, vous pouvez les envoyer.
Vous nous envoyez un mail, on vous donnera notre adresse.
Ça nous ferait très plaisir de les manger en pensant à vous.
Enfin voilà, Kickstarters, allez voir. Il y a d'autres systèmes en France, mais nous n'en parlerons pas.
Vous allez nous écouter, sans doute Noël est passé, ou bien c'est dans tout juste. Vous êtes en train d'ouvrir vos paquets, et là, déception, c'est absolument pas un jeu qui vous intéresse. Ou alors, vous êtes content de l'avoir, vous faites 2 parties, puis non, ça va vraiment pas.
Et tu veux dire qu'ils n'écoutent pas ProxyJeux, et puis ils n'ont pas suivi le guide d'achat de Noël de ProxyJeux?
Ouais, par exemple, ouais. Oh là là. Alors, il y a des gens comme ça qui nous découvrent sur le tard.
Ouais.
Bon, mais bon, c'est pas grave, on leur pardonne.
Donc la prochaine,
l'année prochaine.
Première chose, orientez-les vers nous.
Voilà, bon, on a déjà bien dévié de la news. De départ. Bref, vous avez des jeux qui vous plaisent pas. C'est des choses qui arrivent. Hein. Personnellement, moi, ça me gêne pas. Hein. J'en ai régulièrement qui repartent. On vous conseille le site okazeo.com. Alors, on en a déjà parlé une fois ou deux. C'est un site, c'est le bon coin du jeu, on va dire. Le jeu de société qui vous permet de mettre en vente vos jeux de société ou d'en acheter, malheureusement, aussi. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, vous nous avez demandé dans une news.
Quand
vous parlez des jeux qui sont en rupture, comment on peut les trouver? La bonne idée, c'est souvent d'aller voir sur ce genre de site. Hein. Donc
Ouais, je me souviens, la dernière fois, c'était pour Few Acre of Snow, où on m'a dit, mais ça se trouve plus, en fait, il y en avait encore un sur Ocasio.
Voilà.
Il est réédité en janvier, mais...
Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si le 26 décembre, vous êtes déjà déçu de vos jeux, mettez-le...
Courez sur Ocasio.
Voilà. Ou alors, si vous voulez acheter pour pas cher des jeux qui n'ont pas plu aux autres, allez-y aussi.
Allez, c'est le moment de désigner le grand gagnant du premier concours ProxyJeux.
Non, c'est le deuxième. Il y avait eu un concours l'année dernière. Oui. Le vrai premier concours.
Voilà, on a fait les choses bien. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup à tous ceux qui ont donné les bonnes réponses. Vous étiez largement majoritaire, mais certains n'ont pas bien lu la petite tuile qui était dans le billet.
Le missile nitro-sismique a posé quelques soucis.
Alors, je balance, hein, la question était de Jérémy.
Bah, évidemment, il fallait quand même que...
Que ce soit pas si simple que ça.
Ouais, à la base, on voulait même mettre une question qui vous oblige à aller voir dans le livret de règles, et puis on n'a pas fait gaffe qu'on a mis la tuile en illustration du concours.
Ouais, c'est ça.
Mais bon.
Bon, et ben...
Donc vous avez été très nombreux à répondre. On a mis tous vos noms dans un tableau Excel.
Ouais.
Et on va lancer les dés. Donc on va lancer une pelletée de dés tellement... Voilà.
Voilà. Le doux bruit des dés qui s'entrechoquent.
Les dés sont prêts.
Attends, c'est le tableau Excel qui n'est pas prêt encore. Le fichier Excel est prêt, les dés sont prêts, et Jérémy, vas-y. Alors attends, non,
je n'ai pas regardé le score.
Donc, on va commencer par désigner le vainqueur de la boîte de base de Steam Torpedo et d'une tuile. Alors, comment s'appelle la tuile déjà?
Le poulpe de sautage gonflable. Mm-hmm. C'est un compartiment de blindage qui permet de sauver les marins quand un compartiment est détruit.
Ah, au lieu d'enlever le marin
qu'il soit mort, il devient épuisé.
D'accord.
Super poulpe de sauvetage.
Alors, le gagnant ou la gagnante de la boîte de base et de la tuile poulpe gonflable est numéro Numéro 16, Olivier Allard. Donc Olivier, bravo, tu as gagné une boîte et une tuile et nous avons encore 4 tuiles à faire gagner.
Voilà, ton colis partira dès demain et tu le recevras avant même
Noël.
De nous écouter.
C'est beau. Oh là là.
Allez, on y va, on est parti pour une tuile. 14.
Numéro 14, Jean-Marie Carré.
Bravo Jean-Marie. J'enchaîne ?
Oui, enchaîne.
T'attends de les cocher ?
C'est ouais, vas-y.
25.
Frédéric Martin.
Bravo, Frédéric.
Oh ! Je le connais celui-là.
Avec Frédéric avec un K ?
Oui. Non, avec un C.
Ah bon, alors je t'en couperai. Tu dis pas que tu le connais, après, on va se faire virer. C'est parti.
Non, mais la preuve que les gens qu'on connaît, les gens qu'on connaît, ça ne sont pas ceux qui gagnent.
Le 25.
Le numéro.
J'ai gagné.
25. Ah, encore. Une deuxième, deux une, trois, une deuxième tuile pour faire des Martins.
Alors là, les probas. Le 04.
Hein. Le 04. Christophe Barthélémy.
Bravo, Christophe.
Gagne une tuile pour Steam Torpedo.
Et il reste le 66.
Et le 66, c'est David Richard. C'est David Richard qui gagne une tuile pour Steam Torpedo. Bravo gagnant. Désolé pour les autres, mais ce n'est que partie remise, puisque on peut vous annoncer dès aujourd'hui que le premier, c'est le premier, donc il y en aura d'autres.
Et oui, des prochains épisodes.
Tu veux qu'on on peut teaser
on, ouais, on peut teaser un petit peu les enfants, là. On va vous appâter un petit peu.
Ouais, donc écoutez, on vous parlerait régulièrement de
Rallyman.
Et on a décidé, avec Jean-Christophe Bouvier, de vous faire gagner une boîte de Rallyman 2012.
Donc ça, c'est tout juste pour fêter la nouvelle année.
Pour le prochain, si vous avez perdu, n'hésitez pas à retenter votre chance. Et puis peut-être la prochaine fois, ce sera vous. Allez, on va vous parler un petit peu des jeux qu'on aime, qu'on aime moins, auxquels on a joué dans cette quinzaine et puis dont on veut vous parler. Jérémy, tu commences ?
Allez, alors moi, j'ai décidé.
Tu as décidé ?
J'ai là, voilà, de manière purement unilatérale.
Hey.
C'est comme ça, je suis chef à bord de moi-même, je décide. Je vais vous parler de First Parks.
Donc, ce qui est une bonne idée, puisque c'était un des jeux que moi j'ai repéré à Essen, qui est le descendant, on va dire, de Funkenschlag, qui est un excellent jeu.
Voilà.
Et moi-même, je vais écouter avec un œil attentif.
T'écoutes avec des yeux, toi.
Avec une oreille attentive. Mais je te regarde, en fait. Je te regarde aussi, c'est pour ça. Je te regarde ouvrir la boîte, donc je vais être très attentif à ta review. Donc, écoute, je t'écoute.
Super.
Nous t'écoutons.
Alors, pour ceux qui, un nom barbare comme Funkenschlag ne savent pas ce que c'est Megawatt en français.
Ouais, désolé.
Non, mais c'est vrai que les gens ne savent pas forcément, donc il a un nom français. Power Grid, sinon en anglais. Et donc, à Essen, effectivement, Friedman Fries, l'auteur, où je veux vert, a décidé de sortir. Il faut savoir que c'est sa licence qui marche le mieux, je pense, Funkenschlag.
On parle de deux secondes de petite remise en situation pour Funkenschlag.
La remise en situation complète ?
Ouais,
ouais,
je pensais.
Je comptais le présenter rapidement. Ouais.
Okay,
ouais, ce que je veux dire, déjà, c'est que c'est quand même effectivement un de ces jeux qui se vend le mieux, à mon avis. Donc, déjà, il y a peut-être pas
c'est un de ses meilleurs.
C'est un de ses meilleurs en plus, ouais, clairement. Et c'était il y a deux ans, il avait déjà sorti Electro Manager. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelait en allemand, etc. Il a été sorti sous le nom de Electro Manager en français. Donc, il était pareil. Alors, il était sous licence Funkenschlag, mais on n'y retrouvait pas grand-chose. On gérait son usine. Là, par contre, First Parks, je vais vous présenter le jeu. Il existe qu'en allemand et en anglais. Hein. J'ai pas d'infos. J'ai cherché. J'ai pas trouvé d'infos sur une hypothétique version française. Je pense que Philosophia le traduira, mais rien n'est sûr. Donc, je vais dire First Parks. Donc, ça reprend vraiment les mécanismes de Funkenschlag. Donc, Funkenschlag, c'est un jeu qui va vous inviter à créer un réseau de distribution d'électricité.
C'est sexy.
C'est top, hein. Ouais. Alors, c'est un vrai jeu de gestion super costaud où on fait des calculs dans tous les sens pour, à la fin, gagner 3 électros, c'est la monnaie du jeu.
Ouais, parce qu'en fait...
C'est super, c'est incroyable ce jeu. On brasse de l'argent pour, à la fin du tour, dire « Mais mon bilan, il est quasi nul. »
Ouais, parce qu'on on achète des centrales.
Voilà.
On a des centrales qui ont besoin de combustible, bien sûr.
De combustible pour ensuite alimenter des villes. Toute la victoire se fait au nombre de villes alimentées en fin de partie. Ouais.
Et chaque euro compte ou franc ou électro compte.
Oui, en fin de partie, c'est celui qui a alimenté le plus de villes. Mais s'il y a une égalité, puisqu'en fait la fin de partie est déclenchée dès que 17 villes sont alimentées, s'il y a une égalité, c'est aux électros que ça joue. Et une fois, ça s'est joué à un électro dans une de mes parties. Donc vraiment, chaque électro compte, effectivement. Alors, dans Funkenschlag, ça commence à un tour, il y a une phase de mise aux enchères. Les centrales sont mises aux enchères. Il faut savoir que c'est une fuite en avant dans le jeu. On va être en permanence obligé d'acheter des nouvelles centrales. Et il y a un mécanisme très intelligent qui renouvelle le marché des centrales. Et en fait, pourquoi on va être obligé en permanence d'acheter des nouvelles centrales ? Parce que les centrales, au début, elles permettent d'alimenter 2-3 villes. Même pas d'ailleurs, soit une, 2-3 villes. Et petit à petit, bah, comme on est dans notre réseau, on a besoin de centrales qui en alimentent plus.
Parce qu'on est limité en nombre de...
Voilà, on est limité en nombre de centrales. Et donc, on est obligé de renouveler régulièrement. En plus, on va... Non seulement, donc, il faut s'adapter à la croissance du réseau, mais il faut également s'adapter effectivement aux ressources disponibles, puisqu'il y a un marché aussi des ressources. Et il faut toujours garder l'œil. Le charbon, c'est une ressource qui coûte pas cher, mais forcément, tout le monde en fait. Donc, c'est bien des fois de se positionner sur d'autres, comme le recyclage des déchets. Alors, les fibres écologiques, etc., c'est super. Ouais, hein, vous pouvez les garder en dehors du jeu parce que dans le jeu, vous ferez ce que vous pourrez.
Ouais, enfin, t'as des commandes des centrales qui sont complètement écologiques et qui sont assez performantes.
Ce que je veux dire, c'est que. Oui, mais bon.
C'est pas ça qui fait gagner.
Il va m'arriver de faire des parties où je vais polluer un max à coup de charbon parce que. Oh là là. Alors, les principes, je les ai laissés à l'entrée du jeu. C'est comme ça.
Ce n'est qu'un jeu.
C'est qu'un jeu, voilà, exactement. Et. Donc il va falloir vraiment gérer tout le parc de centrales et puis les combustibles avec cette histoire de marché qui est un petit peu délicat à gérer. Une des particularités aussi de Funkenschlag, c'est qu'il est découpé en trois phases, puisque la première phase, ça va être le temps qu'on arrive jusqu'à cette ville. Et pendant ce moment-là, en fait, dans chaque ville, c'est un peu les monopoles, il peut y avoir 15 joueurs. Ensuite, il va y avoir une deuxième phase qui va être beaucoup plus longue et où là, on va pouvoir être à 2 par ville. Et enfin, il y aura une troisième étape qui est en général assez courte, une troisième phase qui là permet d'être à 3 par ville. Bien sûr, le premier qui arrive dans une ville va payer moins cher son implantation que les autres, etc. Et puis, un système de surcoût quand on va dans des villes plus éloignées. La particularité de Funkenschlag aussi, c'est que ça va... Le premier n'est jamais avantagé. Tout est fait pour que le premier joueur soit rattrapé par les autres. Ça évite le win-to-win.
C'est ce qui fait qu'à la fin de la partie, tu peux te retrouver à avoir un électro de plus que l'autre et de gagner. Enfin, ou de moins de l'autre et de perdre.
Ouais, c'est pas facile. Il faut savoir gérer sa position pendant la progression. Le premier joueur sur la piste de l'ordre du tout des joueurs, mais en fait, très souvent, c'est le dernier joueur qui joue en premier. Mais le premier joueur, c'est celui qui a effectivement le plus de villes alimentées. Donc, il est important de ne pas toujours être en tête, parce que sinon, ça veut dire qu'on va
carrément
acheter en dernier. On va être le dernier à se déployer sur le plateau. On va être le dernier à acheter ses ressources et ça va coûter cher.
C'était carrément pas une bonne idée d'être en tête à Funkenschlag.
Si, il faut de temps en temps.
Ouais.
Pour les enchères. Maintenant, on va quand même parler de First Park. Alors, First Park, c'est quasiment le même déroulé du jeu. Sauf que le jeu a été, on va le voir, les règles ont été tellement simplifiées qu'on divise par deux le temps du jeu.
Ce qui est déjà pas mal parce que c'est 3 heures, une partie de 2h30 de...
Entre 2 et 3 heures, on va dire, pour un Funkenschlag, ouais. Là, on est effectivement plutôt entre, on va être entre 1h et 1h30. Mais ça n'a, pour moi, les jeux n'ont pas du tout la même profondeur. Alors, je déballe le matériel devant les yeux presque ébahis d'Olivier qui est en train de regarder son iPad. Alors, donc, en fait, dans Funkenschlag, l'intérêt, c'est que comme on développe des réseaux électriques...
Excuse-moi, je baisse les yeux quand tu déballes le matériel, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, faut que tu regardes, tu dis « Ouh,
oh,
c'est beau bon. ». Dans Funkenschlag, comme on développe des réseaux électriques... On a des cartes avec des pays. On va avoir, par exemple, il y a eu des extensions, on a la carte de la France. Dans le jeu de base, il y avait la carte de l'Allemagne. Ici, les First Parks, c'est vrai que je n'ai pas présenté le thème. En fait, on est à... c'est la préhistoire. Et en fait, on va simplement devoir...
Oui, c'est la première étincelle, First Parks.
Ouais, mais alors, justement, c'est la première étincelle, mais c'est juste un clin d'œil à la licence Funkenschlag. Mais en fait, on ne va pas nous demander de gérer une quelconque énergie ici. On va simplement devoir gérer son clan préhistorique. C'est la vallée des mammouths, mais façon jeu de gestion.
Sans chaos.
Sans chaos. Ouais.
Sans fait d'outils dedans.
Voilà, ouais. Bah, des fois, on regretterait presque. Alors, le principe, oui, ça va être simplement de nourrir son clan en l'envoyant chasser, cueillir, pêcher. Et puis de le faire prospérer, de le faire grandir. C'est tout. La monnaie, c'est de la nourriture. Et.
Il n'y a pas de billets ?
Non, il n'y a pas de billets. C'est la nourriture, la monnaie. Ouais.
D'accord.
Non. Donc, et le plateau, du coup, c'est juste des sortes de 8 en hexagone. Voilà, en fonction du nombre de joueurs, on en met, par exemple, à 4 joueurs, on va en mettre 4. Ça va constituer le plateau.
Des doubles hexagones. Oh, et plein de petits meeples avec des drôles de formes dedans.
Ouais, c'est la bouffe. Alors, c'est ça, le matos, au niveau carton, il n'y a pas grand-chose. Après, ils ont voulu faire joli, donc ils ont voulu faire comme les hommes préhistoriques, ils vont aller pêcher, ils vont aller chasser des ours, des mammouths. Et ben, il y a plein de petits pions en bois de toutes les formes. Alors, c'est très mignon, c'est quoi, mais c'est pas forcément pratique.
C'est quoi ça?
Ça, c'est les... Alors, ça, c'est les hommes préhistoriques. En fait, c'est un mec qui est debout avec une lance. Au début, on a vraiment du mal, après, on le voit bien. Mais au début...
Ouais, les meeples de l'homme préhistorique, c'est terrible.
Voilà. C'est...
Je peux glisser que, en fait, les jeux de Friedman Friese sont tous, ou presque, illustrés par la même personne. C'est une patte graphique assez reconnaissable. C'est toujours vert, puisque Friedman Friese se teint les cheveux en vert. Mm. Et c'est Maura Kalusky qui fait ça. Et bah, quand vous verrez la boîte de Funkenschlag et quand vous verrez la boîte de First Park, vous...
ouais, même le plateau,
c'est très reconnaissable.
Et moi j'aime bien. C'est une identité graphique est sympa. Bon, je vais quand même vous parler un peu plus du jeu maintenant.
Parle-nous du jeu maintenant.
Voilà, parlons du jeu maintenant. Donc, le principe reste vraiment le même, c'est-à-dire que lors du tour,
on va construire des centrales nucléaires.
Bah non. Donc, tu vas. En fait, tu vas avoir. Ce qui remplace les centrales nucléaires, c'est des outils, en fait. Tu as des outils qui vont être, eh ben, de quoi mieux chasser tes mammouths, tes ours, ou bien mieux pêcher, mieux cueillir, voilà. Et ensuite, bah, ta monnaie, il n'y a pas. La monnaie, c'est la nourriture. Et ton réseau de villes, en fait, c'est simplement ton clan qui s'étend. Puisqu'en fait, sur les hexagones, ils sont découpés. Chaque hexagone est découpé en trois zones. Et chaque hexagone fournit un type de nourriture. Donc, du mammouth, de la cueillette, du poisson, de l'ours. Avec ça, on va avoir les outils qui vont nous permettre ou bien de pêcher, ou bien de tuer les mammouths, ou bien d'avoir des champs. Les champs, ils ne demandent pas d'être présents sur un hexagone particulier du plateau. Ils produisent automatiquement de la nourriture. Donc, le tour du jeu, il est assez simple. On va commencer comme d'habitude, le concept de la mise aux enchères. Donc, on va proposer des outils aux autres joueurs. Donc c'est le premier joueur là, vraiment, donc c'est pareil, celui qui est premier joueur, c'est celui qui a le plus de bonhommes sur le plateau en ce moment. Il va proposer une des cartes du marché. D'abord, le dernier joueur va pouvoir dire s'il est intéressé ou pas. S'il est intéressé, il la prend directement, il paye son coût qui est en nourriture ici et c'est fait. Il n'y a pas d'enchère, donc ça va beaucoup plus vite. Si le dernier joueur ne le veut pas, on le propose à l'avant-dernier joueur, et ainsi de suite, on remonte. Si aucun joueur ne l'a voulu, le joueur qui a proposé la carte est obligé de la prendre. Ça oblige, enfin, c'est pas facile du coup, les choix dans les outils à proposer, parce que ça oblige à proposer un truc que si personne ne veut, on va être obligé quand même de le prendre pour soi. C'est pas
ça. Ouais, c'est aussi l'intérêt.
Ouais, mais en général, tu vas quand même essayer d'avoir proposé des cartes. Si jamais il n'y a pas de carte qui t'intéresse à toi, ça t'arrange pas de devoir proposer une carte. Donc, tu as intérêt à proposer des cartes que tu sais que les autres joueurs vont accepter. Parce qu'elles vont être remplacées. Dès qu'une carte est vendue, on en repioche une autre et on la met directement. Voilà. Alors ça, c'est un petit problème qu'il y a dans le jeu. Il existe aussi un petit peu dans Funkenschlag. Hein. C'est qu'on n'a pas une vraie visibilité finalement sur le marché, puisqu'il y a des cartes qui vont être piochées au hasard et qui peuvent arriver d'un coup et chambouler tes plans. Parce que le marché, il est sur deux lignes. Le marché actuel, donc il y a quatre outils, puis le futur, quatre outils. Et en fait, ils sont classés par ordre... Il y a des numéros en fait en fonction de la puissance de ces outils. Et ils sont classés dans cet ordre-là. Donc des fois, on se dit, bah voilà, je vais me débarrasser d'un outil du marché actuel. Comme ça, ça va faire monter l'outil du marché futur dont j'ai besoin.
Mais il y en a un autre qui arrive entre temps.
On va piocher, voilà, on va piocher un autre. Donc ça fait partie du jeu, hein, c'est pas non plus. On survit à tout ça. À la fin de cette phase, une fois que tout le monde a récupéré son outil ou pas, pareil, on est limité à trois outils. Hein, c'est comme dans Funkenschlag. Il va y avoir la péremption de la nourriture. C'est marrant parce que je l'avais jamais. Enfin, je le trouvais original dans Dungeon Pets. Et finalement, il y a un autre jeu effectivement sorti cette année aussi qui a la nourriture.
Le même mécanisme. Mmh.
Ouais, donc on perd un tiers de la bouffe, là.
Un tiers.
En réalité, de toute façon, t'as jamais beaucoup de nourriture. C'est arrondi à l'inférieur. Donc si t'as deux de bouffe, tu perds zéro. Et tu peux avoir le feu qui est une technologie. Donc il y a des outils au marché, puis il peut y avoir des technologies. Le feu, par exemple, se permet d'éviter ça, d'éviter la péremption de la nourriture. Mais bon, globalement, on perd rarement de la nourriture ou on perd pas beaucoup de nourriture. C'est pas pénalisant en fait de perdre la nourriture. C'est en fait au contraire, c'est un moyen, c'est un moteur pour te pousser à dépenser tout le temps ta nourriture pour acheter des nouveaux outils, même si des fois le gain il est pas évident. Voilà, ensuite, chaque joueur, donc c'est pareil, on commence par le dernier, va d'abord pêcher, chasser, etc. pour nourrir son clan et nourrir son clan. Alors, comment on fait sur une carte outil en fait? Il y a marqué que si par exemple, donc ça revient au marché de Funkenschlag. Si par exemple sur le marché du mammouth en ce moment il y a entre 1 et 3 mammouths, on en gagne un seul. S'il y a 4 mammouths ou plus, on en prend 2. En sachant qu'un mammouth vaut 4 de nourriture. D'accord, c'est la plus grosse bête qu'on peut faire. Les champs par contre, eux, rapportent toujours un nombre de nourriture prédéfini. Et après c'est pareil, donc pour la cueillette, etc., ça dépend du nombre de jetons de nourriture qu'il y a dans le stock. Évidemment, c'est le dernier joueur qui est le premier à servir. Donc au fur et à mesure que les joueurs servent, eh ben, le premier joueur reçoit de moins en moins de choses. Ben, on va recevoir souvent moins de nourriture. C'est une manière d'équilibrer un petit peu le jeu. Et ce qui vous empêche absolument de... Vous ne pouvez pas faire la course en tête tout le temps. C'est pas possible, surtout dans ce jeu. Une fois qu'on vous avez gagné la nourriture, vous nourrissez votre clan. Donc, tu payes un par bonhomme. Mmh. Ouais, c'est logique, mais attention, il y a une grosse différence, c'est que là, tu es obligé de nourrir ton clan. Dans Funtion Schlag...
Tu peux pas les laisser crever, c'est bizarre.
Non, c'est vraiment, tu peux pas nourrir. Ouais, mais dans Funtion Schlag, tu peux avoir 12 villes, et ce tour-ci, ça t'arrange pas financièrement, parce que le marché des ressources est pas bon.
Ouais.
Tu en as alimenté que 9. C'est pas bon pour tes recettes, mais c'est des fois moins coûteux que...
C'est pas très thématique, mais c'est moins... Enfin...
Oui, je comprends tout à fait.
C'est plus bizarre de dire, tu vas pas nourrir tes bonhommes.
C'est pas grave.
Cette année-là, ils vont pas manger, ils mangeront deux fois plus l'année prochaine.
Ça pénalise, hein, parce que du coup, ouais. Chaque bonhomme que tu ne peux pas nourrir, il meurt, donc il dégage du plateau.
Oui,
ça te retarde par rapport à
la différence avec Funken Schlag où tes villes, elles restaient quand même sur le plateau.
Et oui, c'est ça. Donc là-dessus, t'as vraiment une contrainte qui est très très forte. Mm. Donc il faut bien faire attention pour gérer ça. Une fois que tout le monde a nourri, ensuite on va s'étendre. Donc pour s'étendre, c'est facile. On peut s'étendre sur les zones qui sont autour de nos bonhommes déjà en place. Au début de partie, on en met un ou deux. Et on paye en fonction du nombre de bonhommes qu'on met. Si on en met qu'un, ça nous coûte 1. Si on met 2 bonhommes sur le plateau, ça nous coûte 3. Si on met 4 bonhommes, ça coûte 6 et ainsi de suite. Jusqu'à 5 bonhommes maximum, ça te coûte 15 de nourriture, ce qui est énorme. Sachant que si tu arrives sur une zone qui est déjà occupée par d'autres pions, tu vas payer encore un surplus. Si par exemple il y a déjà 2 pions, tu vas payer 3 parce que tu es le 3e pion qui arrive sur la case.
C'est donc difficile d'aller chicaner les autres ?
Bah si, tu vas forcément parce que le plateau est tout petit. Mais le problème c'est que ça coûte très cher. Donc au début tu vas essayer de t'étaler un petit peu là où tu veux. Tu auras personne et après.
C'est juste difficile de s'y attendre en fait.
Bah tu t'étends 2 ou 3 par tour à peu près. Mmh. Enfin la fin de partie c'est quand tu arrives à 13 bonhommes. Donc ça arrive assez rapidement aussi. C'est ce qui fait aussi que le jeu est plus court que Funken Schlag.
C'est donné pour une heure et demie, une heure ?
Une heure, ouais. Mmh. Il faut savoir gérer cette croissance-là aussi. Du fait, justement, il y a plusieurs choses. C'est que si on croit plus vite que les autres et qu'on a plus de bonhommes, on va se retrouver premier joueur. Donc déjà, il faut être sûr que le prochain tour, on va être premier joueur. Et l'autre chose, c'est qu'il faut savoir gérer sa croissance là-dessus par rapport justement à la nourriture, comment on va nourrir son clan. Parce que si on se retrouve premier joueur, on va être le dernier à ramasser. Est-ce qu'on va ramasser assez de nourriture pour nourrir tous ces bonhommes ? C'est une bonne question qu'il faut se poser à chaque tour. Les calculs sont quand même beaucoup plus légers que dans Funken Schlag. Dans Funken Schlag, ça devenait très complexe à tout calculer parce qu'on brasse beaucoup de dizaines. Là, on n'en est pas là, hein, puisque en général, on va brasser 15-16 de nourriture maximum. Donc on est sur des calculs assez simples. Ça, vraiment, il n'y a vraiment pas la partie prise de tête qu'il y a dans Funken Schlag sur les calculs. Ça, c'est très bien. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on passe à la phase de fin qui est la bureaucratie où on redétermine l'ordre des jeux des joueurs.
Ouais, j'appelle ça l'upkeep. Moi.
On recharge les ressources et puis on renouvelle le marché. Dès qu'un joueur arrive à 13, c'est la fin de la partie. On regarde si plusieurs joueurs sont arrivés à 13, le tiebreaker, c'est
la nourriture. Facile.
Hier, on a fait ex aequo pile poil. Parce que, je pense, par rapport à Funken Schlag où on brasse pas mal d'électro, à la fin de la partie, on a quand même une belle liasse de billets en main. Surtout que c'est à la fin du tour, on a fait tous les revenus.
Ça dépend.
Ouais, mais là, on a fait tous les revenus. Là, ta dépense, revenus-dépenses, elles ne sont pas dans le même ordre que dans Funken Schlag. Et on ne brasse pas autant, puisque tes ressources, du coup, tu as plus de risques d'être à égalité même sur la nourriture qu'avec les électrons. Bon, enfin, c'est pas très gênant. C'est juste pour dire l'anecdote hier, donc on est arrivé ex aequo à un pile poil. Moi, ce que j'aime bien, c'est que. On n'a pas la partie trop prise de tête sur plein de calculs. Par contre, je trouve que c'est presque des fois trop simple, en fait. Quand tu es entraîné, et puis surtout que tu n'as pas cette expansion du réseau de la même manière. Tu ne gères pas de la même manière l'expansion du réseau. Et le fait qu'à un moment, tu peux dire, bah non, ce tour-ci, j'alimente moins de villes pour redescendre dans le score, etc. Ça, tu ne peux pas le faire ici. Ça fait mal. Surtout que tu ne peux pas. C'est toujours pareil. Il y a toujours le risque qu'un joueur essaie de tout calculer à la fois, c'est impossible de tout calculer, de se dire oula, alors attention, si lui passe premier joueur, où est-ce que je serai premier joueur, le tour prochain, comment il va y avoir de bouffe à récupérer, machin. C'est impossible de tout analyser. Et
C'est donné pour quel âge ? Alors, nous regardons sur la boîte.
13 ans et plus.
13 ans et plus. Alors, ouais, 13 ans et plus.
Bon, je pense que c'est jouable avant, contrairement à Funken Schlag.
Ouais, c'est la question en fait.
Un vrai plus par rapport à Funken Schlag. Je connais des joueurs à Funken Schlag. Le problème, c'est que si tout le monde joue comme eux, plus personne, enfin, on n'avance pas dans le jeu. Ils font exprès d'attendre. Dans la première époque, ils font exprès d'être les derniers dans le classement, etc. Et d'un coup, quand on passe à la deuxième étape et où là, on peut être à deux par ville, là ils se lâchent et ils se mettent partout parce qu'ils ont thésaurisé, ils ont gardé plein d'argent et ils exploitent en fait une petite faille du jeu là-dessus. Là, c'est pas possible puisque de toute façon, partout, on peut poser maximum 5 bonhommes et qu'en plus, c'est incrémental. Quand on met 3 bonhommes, ça coûte beaucoup plus cher que si on en a mis un pendant 3 tours d'affilée.
Donc si je comprends bien, il a gardé les mêmes mécanismes, les mêmes étapes, mais il a simplifié et il a fait en sorte que son jeu soit plus court et accessible à plus de monde.
Ouais, mais du coup, je trouve, je sais pas d'où ça vient, peut-être dans Function Stack c'est pareil, mais comme il y a plein de paramètres à prendre en compte par rapport à là, en tout cas on a l'impression qu'il y a plus de paramètres à prendre en compte, etc., on est un peu plus embrouillé. Ici, je sens quand même qu'il y a une part du hasard qui n'est pas forcément contrôlable.
Mais ça t'a pas plu? Tu es déçu?
Ouf. Non, en fait, la première partie, j'étais vraiment déçu. J'ai dit tout de suite, faut rejouer rapidement parce que ça m'allait pas. La deuxième partie, une fois qu'on a bien assimilé tout ça, non, ça va bien. L'avantage, comme je dis, il n'y a pas la partie prise de tête. Mais je trouve qu'il n'y a pas le même plaisir parce qu'on développe pas un réseau. Je trouve que le thème est trop plaqué. Par contre, c'est un jeu qui ne fait pas forcément double emploi dans une ludothèque, déjà parce que je ne le destinerai pas au même public. Celui-là, il est parfait pour faire jouer des gens qui jouent peu. Il est simple. Il est très simple à gérer. Il est beaucoup plus simple à gérer du fait qu'il n'y a pas déjà les enchères. Parce qu'avec une phase d'enchères, c'est pas simple à un néophyte. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé la correction des bugs de Funkenschlag. Après, on a toujours le fait que quand on est premier, c'est encore plus flagrant dans celui-là, justement. On se fait vraiment ralentir par rapport aux autres. Ça va vraiment coûter cher de se répandre, de répandre son clan. Ça va vraiment gagner moins de nourriture. Donc, on est obligé d'alterner en fait des tours. On est en tête et des tours, on va être un peu plus loin. Mais il faut quand même rester accroché au peloton de tête si on veut espérer monter à 13 lors du dernier tour. Si je suis qu'avec des vrais joueurs, je ne jouerai pas celui-là. Je sortirai Funkenschlag. Ouais. Juste un dernier truc, parce que je joue à la feuille en rangeant la boîte. Ce que j'aime bien, par contre, il y a des achievements. Moi, j'adore ça. Je trouve ça vachement sympa. Bon, on ne les a pas remplis, mais c'est toujours le... Mais il y a des trucs vachement sympas.
T'as quoi, tu... Enfin, quel genre?
Ah, il y a des trucs, trucs genre ma couleur gagne. Il y a... Il y a la première partie de l'année qui permet d'aller jusqu'en 2016. Bon, il y a des trucs un peu plus sympas. Par exemple, il y a si jamais tu as gagné sans l'aide des mammouths. Parce que c'est vrai que quand tu as l'outil qui permet d'aller tuer du mammouth, le mammouth, ça rapporte quand même 4 de bouffe, c'est bien.
Trop face.
Ouais, c'est trop face, mais en fait, t'en as vraiment besoin. Oui. Et donc, si tu gagnes sans les mammouths, tu as le droit à ton achievement. Tu as aussi le droit à un qui est bon quand t'as gagné.
Mais écoute, en fin de compte, et c'est le gros avantage des achievements, c'est que ça te permet peut-être d'essayer des choses que tu n'essaierais pas si ça n'existait pas. C'est-à-dire, tu me fais penser à ça, c'est bon, bah, je gagne toujours, j'ai une martingale, entre guillemets, j'ai une façon de jouer qui est préférée, bah, je vais sortir un petit peu de mon confort, puis je vais essayer de jouer autrement. C'est pas mal en fait, c'est une bonne idée.
L'achievement le plus dur à obtenir, je pense, c'est celui où on est le seul perdant à ne pas avoir eu 13 bonhommes à la fin de la partie.
Le seul.
Le seul, parce que des fois, il n'était pas le seul. Voilà. C'est pas celui de gagner, c'est celui de finalement perdre qui est le plus dur à obtenir.
Donc, Power Grid The First Sparks. Pour 2 à 6 joueurs à partir de 13 ans, mais a priori on peut le proposer à des enfants, des jeunes un peu plus jeunes.
Même plus jeunes, parce que les calculs sont vraiment plus simples.
Et pour une durée de 60 à 90 minutes.
Pour un prix à peu près de 40 euros.
Allez, puis très rapidement, je voulais vous présenter Aura et Labour. Alors je vais pas vous faire une. Enfin, on va pas faire un développement tactique
minutes.
Et ouais, voilà, on va éviter ça. Mais comme ça fait partie d'un des jeux que j'ai récemment reçu et que je pense que beaucoup d'entre vous se posent des questions, je vais vous donner une première impression. Pas fait 50 parties, donc je peux pas vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce jeu, mais je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Alors, Aura et Labora, c'est Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg, c'est le papa du Havre et d'Agricola.
Agricola.
Et c'est édité chez Philosophia, donc francisé, puisque c'est sorti chez Lookout Games et ça a été francisé et c'est arrivé par la poste il y a quelques jours chez nous. L'idée est très simple, il faut faire prospérer un prieuré. C'est-à-dire cette fois-ci, on oublie la ferme, on oublie le Havre et on a un prieuré avec...
Est-ce qu'on brasse la bière ?
On fait du whisky ou du vin.
Ah, pas mal.
Voilà. Alors l'idée, c'est qu'au départ, on va avoir... un plateau individuel avec 5 cases sur 2, avec déjà 3 bâtiments, le prieuré qui permet d'obtenir de l'argent, la colline d'argile qui permet d'obtenir de l'argile, et la ferme qui permet d'obtenir soit des céréales, soit du mouton. Donc à partir de là, on a aussi sur notre plateau individuel de la forêt et de la tourbe, qu'on va pouvoir également récolter ou couper, et qui vont venir dans notre stock, faire du bois ou de la tourbe.
Très bien.
Le bois, ça donne, comme la tourbe,
du chauffage.
Et les céréales et l'agneau donnent de la nourriture.
On retrouve vraiment les concepts de Agricola plus son extension.
Oui, tout à fait. Donc, contrairement à Agricola dont on parlait, où on va avoir une famille qui va grandir, là on aura en tout et pour tout que 3 pions. on va avoir deux frères convers et un prieur. La différence entre les frères et le prieur, c'est que le prieur, quand on va construire un bâtiment, on va pouvoir l'utiliser tout de suite. À part ça, c'est la même chose. Ça permet de se mettre sur un bâtiment et d'obtenir l'action. Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment de production, on va se fier à la rondelle. Alors la fameuse rondelle dont on a...
La roue, tu veux dire.
Ouais, alors je dis rondelle, mais en fait, la roue qu'on a comparée abusivement à la rondelle de Margate, ça n'a rien à voir. Uwe Rosenberg a réglé un des défauts d'Agricola. C'est que Agricola, tu vas poser sur les cases du plateau de plus en plus de matières premières. Et bon, voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu répartitif à faire et qui prend beaucoup de temps. Alors que là, à toutes les fins de manche, la roue va se déplacer. Et en fait, sur la roue, tu vas avoir 0, 1, 2, 2, 3. Et en fin de compte, ça va incrémenter le nombre de productions elle ne va pas bouger.
Ça va avoir à faire la manipulation.
Tout à fait.
Très bien.
Donc, quand tu as de la production, tu vas te référer sur la roue et puis tu vas prendre un certain nombre de petites tuiles en carton correspondant à la matière première. À plein. Ça m'a choqué, mais il y en a plein.
C'est ignoble ?
Non, c'est très bien. Parce qu'elles sont réversibles. Et c'est ça le truc.
Okay.
C'est-à-dire que quand tu vas ensuite avoir à transformer cette huile, tu vas aller retourner. Et souvent,
comme dans le Havre.
Oui, tout à fait. Alors, j'y viendrai, mais ça m'a vraiment donné plus l'impression d'être un Le Havre qu'un Agricola. Mais j'y viendrai. Donc là, tu as plein de petites tuiles et les tuiles, tu vas les transformer. Donc l'idée, c'est que tu vas acheter des bâtiments. Les bâtiments vont te donner de la production, vont transformer cette production, vont gagner des points de victoire, tout ça.
Ça fait penser au Le Havre, effectivement.
Tout à fait. Alors, deux, trois choses. La première chose, c'est que tu vas pouvoir t'étendre. Donc tu vas pouvoir acheter des bouts de plateaux complémentaires. Ça peut être soit des lopins qui sont des régions côtières ou des régions montagneuses, soit des districts. Et les districts, en fait, c'est une bande d'une case sur cinq et qui vont se mettre au-dessous de ton plateau individuel et qui vont le compléter où tu vas trouver de la tourbe et de la montagne. C'est-à-dire quand tu vas avoir ce district supplémentaire, alors n'enfonce pas, s'il te plaît.
Non, t'inquiète.
Parce que ça, c'est un truc dont je parlais tout à l'heure. Jérémy, t'es en train de jouer avec la roue. Et il y a un gros problème sur la roue au niveau du matériel. Mais ça, c'est... Donc on peut acheter Lopin et District pour augmenter les possibilités et puis agrandir sa bourgade. Le décompte du nombre de productions n'est pas le seul intérêt de la rondelle. Elle permet également de diviser la partie en un certain nombre de phases. Donc il va y avoir une première phase où on va avoir des bâtiments. Ensuite... va arriver un restock en fait au niveau des bâtiments et on va pouvoir faire une phase d'agglomération, j'en parlerai tout à l'heure, et il va y avoir une phase A, B, C et D et puis un tour complémentaire, mais en général il y a 4 phases et à chaque phase on va avoir des bâtiments qui seront de plus en plus puissants, de plus en plus chers. Il va y avoir une gradation en fait dans le développement et des transformations qu'on va pouvoir faire et on va pouvoir évoluer comme ça au niveau de ce qu'on va pouvoir faire. Le déroulement de chaque manche est hyper simple, puisqu'à chaque manche, on va pouvoir jouer deux actions. Et les actions sont construire un bâtiment, placer un ecclésiastique, ou alors abattre des arbres ou couper la tourbe. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'avec chaque lopin ou district supplémentaire, on avait des matières premières. Donc voilà, donc ça se joue ultra vite, c'est-à-dire que chaque joueur a des actions en nombre limité. On peut aussi faire jouer son adversaire, c'est-à-dire qu'on peut dire toi tu vas jouer, j'aime bien le bâtiment que tu as construit, tu as encore un bonhomme disponible, donc je vais te donner un sou et puis tu vas faire ça à ma place. C'est-à-dire que je veux utiliser ton bâtiment, je vais te donner matière première et c'est toi qui vas travailler à les transformer. Donc le concept est hyper simple, le matériel est tout à fait joli. Il n'y a qu'un seul problème avec les disques, c'est qu'il y a des petites flèches qui tournent en fait, et puis il y a des espèces d'attaches parisiennes en plastique, sauf que les disques sont recto-verso. Donc quand on va avoir une flèche qui sera passée sur un disque, il ne faut pas du tout presser les deux parties en plastique, parce que sinon tu vas rester coincé sur une des faces du disque. Je ne sais pas si je suis très clair en fait, c'est-à-dire que si tu veux, tu as un disque, au lieu, tu as une configuration de joueurs, une 3 joueurs, une 4 joueurs et une 1 2 joueurs.
D'accord. Il faut changer
sauf
ça,
qu'il y a
quoi.
Deux disques, deux flèches.
Mais un seul truc, un seul picot.
Et en fait, la flèche, tu la mets soit d'un côté, soit de l'autre de ton disque. Et quand tu as commencé à le presser, tu peux plus l'enlever. Donc c'est la croix et la bannière.
Et tu peux pas mettre les flèches des deux côtés.
Ah si, mais ça veut dire que... Ah bah non, parce que t'as que deux flèches, là où il t'en faudrait quatre. Ils ont... En fait, il leur manque deux flèches. Et surtout, le fin du fin, c'est que les flèches sont recto verso. C'est-à-dire que ce que t'as d'un côté, 1, 2, 2, tu vas pas l'avoir de l'autre côté. Tu vas avoir 0, 2, 3, 4. Donc c'est un peu le bazar. Là, ils sont un petit peu loupés. La boîte foisonne de matériel, mais là, c'est
ça pas... flat.
Là, c'est pas top. Alors, sur la boîte, c'est marqué 2-3 heures. C'est vrai. C'est un jeu qui est long. Ça se joue de 1 à 4. On peut jouer en solo et on peut y jouer jusqu'à 4. Je ne conseillerais pas à 4 parce que ça doit vraiment être trop trop long. Et même.
Parce que quand un joueur joue, toi tu fais rien, c'est ça. Enfin, c'est un truc où tu passes.
Ah, tu fais rien, non. Enfin, ouais. Si tu vas c'est réfléchir.
Long. C'est long. Non, tu disais que les actions étaient rapides.
T'as que deux actions, mais si tu veux. Alors oui, il faut que tu réfléchisses à ce que tu vas faire. Sauf que si l'autre qui est devant toi prend ou ne prend pas ce bâtiment, bah, tu vas avoir, ça va réduire un petit peu le genre
Ça change tes choix, donc tu es obligé de réévaluer forcément.
Tout à fait. Ça me fait beaucoup penser à Le Havre. Parce qu'il y a beaucoup de matériel et il faut jouer sur la transformation des matériels. Donc on va avoir de la nourriture et trois matières premières, si tu veux, avec de la nourriture, de l'argent, du chauffage et c'est tout. Et en fin de compte, bah avec ça, il va falloir, faire évoluer ton prioré. Chose que j'ai pas dite et qui est super important, on gagne. Parce que les bâtiments qu'on va construire ont des points de victoire. Parce que les matières premières qu'on va transformer donnent des points de victoire. Mais également, il y a un truc incroyable, c'est que chaque bâtiment va donner des points d'agglomération, enfin, vont donner des points aux bâtiments qui sont adjacents. C'est-à-dire que tu vas avoir 3, 4, 5 points qui seront donnés aux 4 quartiers que tu auras construits autour. Tu auras également moins 3 points qui seront donnés aux quartiers qui seront construits autour. Mmh. Donc c'est super bizarre parce qu'en fin de compte, ben moi j'ai pas envie de les prendre, les quartiers à moins 3. Donc j'ai pas assez de recul pour savoir si c'est une bonne chose ou pas. Mais bon voilà. Ça fait beaucoup 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 penser au Havre. On vous en reparlera parce que c'est juste une première impression. Les règles sont super simplissimes. Ça a l'air super intéressant. Ça a l'air super long aussi. Donc ben on verra à l'usage ce que ça donne.
Un petit mot du sponsor au passage. Donc notre sponsor c'est Ludic Bazar. C'est lui qui nous aide à nous financer notre joli matériel qui vous permet de profiter de notre douce voix quand on fait ces podcasts, quand on fait les interviews aussi par Skype. Et donc sur Ludic Bazar, vous pouvez trouver
plein de choses
et notamment des jeux dont on a parlé ce soir, à savoir en précommande Funkenschlag The First Parks. Que vous pouvez trouver pour 38,50€ en précommande, c'est-à-dire que vous l'achetez maintenant et vous êtes sûr de le recevoir dès qu'il sera disponible. Et puis vous pouvez également trouver par exemple Ludic Bazar, ils sont connus pour avoir un gros rayon de déstockage. Ils déstockent un peu tout, pas mal des jeux de société, mais aussi pas mal de jeux de rôle, des magazines, du jeu de figurines. Ils ont vraiment de tout. Et notamment, j'ai repéré actuellement sur leur catalogue pour un peu moins de 24€. La troisième édition de Rallyman. Donc celle qui... Rallyman, on va dire 2011, puisque les nouvelles arrivent maintenant.
Pas mal, 24€.
Ouais, c'est pas mal, en sachant que là-dessus, bien sûr, si vous êtes déjà client fidèle, vous pouvez encore bénéficier des 5, 10 ou 15% de réduction inhérent à votre fidélité.
Ça marche avec le déstockage aussi.
Ça marche pas sur tous les produits de déstockage, mais ça marche sur celui-là.
D'accord, super. Merci, Ludic Bazar. Allez, puis je vais commencer pour les événements, parce que les événements, en fait, on a l'air de dire que c'est Noël et qu'il n'y a rien, en fait, il y a plein de trucs. Alors, enfin, ça va venir, donc on vous l'annonce maintenant, comme ça, vous serez préparés. Première chose, je voulais vous parler de bar gaming. Si vous êtes parisien, j'ai participé à un événement qui s'appelle le Hasbro Paris Tour la semaine dernière, qui était super sympa. L'idée étant de faire découvrir Bopit, qui est la dernière petite merveille d'Hasbro. Alors, certains me font une moue assez incroyable. Moi aussi, j'ai dit, bon, Hasbro, ok. En fait, je vous mettrai un tout petit descriptif de ce que c'est que Bopit. Ça plaît beaucoup aux enfants.
Et ça existe sur les iPads.
C'est vrai?
Ouais. Je sais pas comment ils l'ont porté, le jeu, mais bref.
Ouais. Mercredi, j'avais un rendez-vous sur ouais, n'est-ce pas,
date.
C'est très ouais, et puis il y a le secret, on dit pas où est-ce que ça se passe et comment ça va se passer. Donc bah c'était entre le croisement d'Iéna et je ne sais plus quelle rue, place de l'Étoile. Et puis quand je suis arrivé, ben il y avait un bus noir, un petit bus d'une quarantaine de places. Et on nous a fait monter dans ce bus, et c'est un bus avec un vestiaire, des toilettes, un bar, enfin c'est une petite boîte de nuit quoi. Et les gens d'Hasbro nous ont présenté Bob It, qui est c'est un objet étrange avec une petite poignée bleue, avec ouais, une grande poignée blanche, et qu'on attrape et qu'on presse dans tous les sens. Et l'idée c'est que je sais pas s'il y a un équivalent. Une petite voix va te dire de presser Bob It, qui est un petit rond blanc. Donc tu vas presser le machin. Ou alors va te dire tire. Et il va falloir que tu tires la petite poignée bleue. Va te dire tourne. Et tu vas tourner la petite poignée jaune. Et puis voilà. Donc l'idée c'est qu'il faut que tu te concentres et puis que tu fasses ça, que tu obéisses aux ordres du Bob It.
Mais chaque joueur a le sien.
Alors tu peux. Ou tu peux jouer qu'un seul, c'est-à-dire que tu peux avoir un Bob It et tu peux dire bah, quand je rate, j'ai fait 10, 15, 20, 34, 150, 150 comme meilleur score.
Au billard français, toi.
Pardon ?
C'est comme au billard français.
C'est possible.
On te regarde jouer.
Ou alors tu as le pass et en fait, tu vas dire ok, j'en fais 3, 4, hop, ça dit pass, je vais passer à mon voisin et tu fais par élimination. Alors, excellent pour les enfants, parce qu'avec les miens, ça a très bien marché. Excellent pour les ados, pour un jeu à boire. Voilà. Après, moi, j'y croyais pas. Et en fait, c'est étonnant.
Et le reste de la soirée, sinon ?
Et le reste de la soirée, c'est... C'est petit four, un petit tour dans Paris avec... on s'est arrêté devant le Louvre, on s'est arrêté devant la Tour Eiffel, on s'est arrêté... alors, on a descendu les Champs-Élysées dans notre bus. Alors, c'était pas une limousine, mais c'était presque ça. Et puis, il y avait la musique. J'étais bien accompagné. Donc, ça aussi, ça m'a permis de rencontrer des gens. C'était sympa. Il y avait une démonstration de danse moderne, hip-hop, je sais pas quoi. Bah voilà, je dois dire que je me suis senti un petit peu vieux pour ça. Mais j'étais accompagné. C'était vraiment très, très sympathique. Et tout était sympa. Il y avait des gens d'Hasbro pour...
Donc, c'est bien organisé.
C'était super, super bien organisé. Et puis, quand tu... Voilà. Enfin, quand je dis les places sont chères, c'est pour ça que c'est une soirée super sympa et qui te coûte pas un rond, tu vas boire un coup, papoter.
Et tu pars avec ton Bob It.
Et tu repars avec ton Bob It. Et je pense que là, en l'occurrence, c'était parce qu'Alex Brou était là et que voilà.
Ça peut très bien être un Milborn à tester.
Je ne pense pas. Je ne sais pas si Dujardin sera partenaire. Donc voilà, c'était dans le cadre du bar gaming, et je pense qu'ils ont de plus en plus de portée, ils ont de plus en plus de sponsors, enfin
de
partenaires.
Je suis étonné. C'est,
pardon.
C'est quand même un gros truc, enfin genre la mise en scène machin pour 40 personnes pour.
Ouais, mais tu vois, enfin j'y croyais pas. Ouais. Je me suis dit putain, t'as quand même un investissement qui est assez lourd par rapport à ce que tu retombais. En fin de compte. C'était mercredi dernier, je suis revenu, j'ai fait jouer mes enfants, ils ont aimé. C'est peut-être un cadeau que je ferai à quelqu'un d'autre. Si les enfants de mes voisins viennent, ils vont forcément y jouer. Si mes enfants vont chez les voisins, ils vont forcément y jouer.
À partir de 40 personnes seulement au début.
Mon épouse est allée au travail et l'a amenée.
Bravo.
C'est Noël. Hein.
Bravo. Non, mais c'est les gens qui jouent au travail. Moi, je comprends pas.
Et non, mais pour le montrer, tu sais, cet objet, quoi.
C'est pareil, bizarre.
Et en fin de compte, il y a une portée que je ne soupçonnais pas. Il y a vraiment eu quelque chose. Donc voilà. Donc, enfin, c'est bien fait. C'était cool. Et je pense que, enfin, le bar gaming pour les Parisiens, c'est quelque chose d'incontournable.
À raison de 40 places.
Oui, mais il y en a. Là, c'est numéro 10. Et puis, il faut pas les rater, quoi. C'est pour ça que les places sont chères. C'est Praska qui a organisé ça avec son équipe dans le cadre des bar gaming. Et le bar gaming, comme son nom l'indique, c'est du jeu dans les bars. Ça date de printemps 2010 à peu près. Et rapidement, en plus du jeu vidéo, il y a eu du jeu société. Donc je vous mettrai tout ça sur le site. C'est Jim de JSP qui tient en fait le rôle de sponsor du jeu de société. Et voilà, donc il y en a à peu près 3 ou 4 par an. À vous d'aller voir un petit peu quand est-ce que ça aura lieu, quand le prochain aura lieu. Je vous conseille de vous abonner au Twitter de Bargaming, de veiller un petit peu à ce qui se passe, et puis de sauter sur l'occasion d'avoir une place parce que c'est excellent.
Ah bah ça.
Et puis, si vous avez envie d'entendre un petit peu plus parler du Bargaming, je vous conseille d'écouter le numéro 72 de l'apéro du Capitaine Web. J'aime le Capitaine Web, ne m'en voulez pas. Et cet épisode s'appelle « Dr Praska et le Bargaming des Biatch », tout un programme.
On va enchaîner avec un week-end chez nos cousins belges. Alors, ça se passe à La Marmite, pas loin de Tournai.
Tournai ?
À Tournai, voilà. Mmh. Alors, est-ce qu'on va jouer K et Tournai ? Non. Alors, attends, je...
Et à 3, bah on joue qu'à 3.
Voilà.
Et à Lyon, on joue, Monopoly de Lyon.
En fait, tu joues à 3, mais à Tournai.
C'est ça.
Ou alors à l'inverse. Alors, je recommence. Donc, ça se passe en Belgique, pas loin de Tournai, et l'événement s'appelle Ludweekend. C'est l'occasion de jouer pendant tout un week-end, comme son nom l'indique, du vendredi 3 février 18h jusqu'au dimanche 5 à 14h.
A priori, au programme, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, 50e méta, Seven Wonders, Asteroids, Bombay, Cash and Gun Live.
Que des nouveautés.
Caius, Claustrophobia, oui mais c'est... Attends.
Non, c'est des classiques, je ouais, blague.
On ne peut pas jouer que aux nouveautés. Cuba, Death Angel, Earth Reborn... Endeavor, j'aime. Fief, Formule D, Galaxy Trucker, Guillotine, Identique, Illuminati, Killer Party, L'île Interdite, Le Havre, tiens, on en parlait.
Ah ben voilà.
Ou pas. Les Colons de Catane, Louis XIV, Ninja contre Ninja, Mundus Novus. Ah, bah tu voulais parler, bah tu vois, il y a aussi de... Il y a aussi du nouveau Respublica ouais. Romana. Alors là, on est dans le grand ancien. Senji, Space Alert, Space Dealer, The Boss 3. Twilight Imperium pour les plus courageux.
Il n'y a pas de
Trajan. Wirochka, Wirakocha.
Wirakocha.
Wirakocha. Et voilà. Et il y a même des choses qui devraient se rajouter d'ici février avec Sherlock Holmes, Detective Conseil, Blood Bowl, Team Manager. Tournée, etc., etc. Donc il y a énormément de jeux, des anciens, des nouveaux. C'est Ludic Weekend.
Voilà, donc c'est pour 25 à 50 personnes seulement, donc il est conseillé de réserver tôt. On vous mettra toutes les infos.
Bah, dès que vous entendez, si ça vous intéresse et que vous êtes en Belgique, il faut y aller.
Le PAF, c'est 60 euros. Ça ne comprend pas les boissons, mais ça vous comprend par contre tout ce qui est hébergement. Alors l'hébergement, il est simple, hein. C'est à vous de fournir votre duvet. De toute façon, dans ce genre d'événement, pourquoi dormir ? C'est, je pense qu'il devrait être sponsorisé par Huronzan, ces trucs-là. T'as l'occasion de jouer pendant deux jours non-stop, puis il faut y aller, quoi.
Et
tu dormiras plus tard. Hein.
Et tu, oui, là, voilà, tu prends un jour de congé pour le lundi.
On dormira quand on sera mort, comme on dit. Voilà, donc on mettra toutes les informations sur le site. Ne tardez pas, hein, il faut avoir envoyé le chèque, votre réservation avant le 10 janvier.
Et puis cet hiver. Entre le 7 décembre et le dimanche 11 mars 2012, pour les Parisiens ou les gens qui se rendront à Issy-les-Moulineaux, qui ont la possibilité de se rendre à Issy-les-Moulineaux, il y a l'exposition Alice au Pays des Merveilles au musée de la carte à jouer de Issy-les-Moulineaux. L'exposition en tant que telle, c'est 24 tableaux des aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Mais l'intérêt n'est pas que là, puisque autour de l'exposition, il y a énormément de choses qui se passent, qui se sont passées ou qui vont se passer. Alors d'abord, il y a des conférences. Alice au Pays des Merveilles dans les littératures enfantines anglaises, françaises ou mondiales. Alice au Pays des Merveilles, des images, l'univers de Lewis Carroll. Lewis Carroll, un créateur aux multiples facettes. Il y a aussi des animations, avec notamment des pièces de théâtre. Pour les groupes scolaires, il y a aussi la découverte du monde de Lewis Carroll. Et puis, il y a des ateliers ludiques, des ateliers de dessin, des ateliers de contes, enfin... Plein de choses à découvrir et à faire autour du thème de Alice au Pays des Merveilles. Alors, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du jeu de société, mais bon, c'est, enfin, Alice, c'est quand même la dame de pique.
Qu'on leur coupe la tête.
Et puis, c'est au musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux. Donc, n'hésitez pas à faire un détour pour vous y rendre. Et vous trouverez toutes les informations pratiques sur notre site www.proxy-jeux. Proxy avec un i, jeu avec un x.fr. Les écrans, Jérémy ?
C'est parti pour les écrans.
Allons-y.
On va commencer avec Board Game Arena. On a fait l'interview il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Il y a un super dossier. Hein. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y.
Ouais.
Donc, pour ceux qui n'auraient pas écouté le dossier, Board Game Arena, c'est un moyen de jouer dans son navigateur à des jeux de société. Et ils viennent tout juste de fêter leur 1 an en tant que Board Game Arena. Évidemment, avant, ça s'appelait tournoi en ligne, mais ils sont tout contents. Ils ont eu 1 an. Bon, ça encore. Youpi, la bougie.
Et nous aussi, on a bientôt 1 an.
Ouais, c'est ça. Dans 6 mois. Après, par contre, ils nous en avaient parlé dans l'interview. Ils ont démarré la semaine dernière leur programme pour internationaliser leur site. Et ils ont proposé au début, donc ils ont voulu que les gens participent pour faire une version allemande du site. Ça a tellement bien marché que 2 jours après, ils avaient déjà atteint ce qu'il fallait qui était traduit. Et ce week-end, ils ont déjà tout mis en version allemande. Alors, je ne suis pas allé vérifier la version allemande, mais normalement, elle devrait être en ligne.
Ah, moi, je vais bien vérifier, mais je vais vérifier quand même tout.
Voilà.
Non, donc, tu peux pas de... Ah, si, parce qu'en entrant, tu vas avoir français, anglais et allemand.
Ouais, peut-être. Moi, par défaut, j'arrive sur fr.boardgamearena.com, donc du coup.
C'est ça.
Je vois plus. Mais j'irai regarder. Et donc, si vous êtes motivé pour participer à la future traduction du site, suivez l'actualité chez eux. Je pense qu'ils ne tarderont pas à vous demander. Il faut savoir que ceux qui participent le plus sont en plus remerciés en se faisant offrir un compte abonné pour 1 an. L'autre info, ensuite, ils devaient sortir Hawaï. Malheureusement, ils ont un petit retard. Bon, on leur pardonne, hein, ils ont sorti quand même la version allemande aussi en 3 jours à peine. Mais on sait déjà du coup quel sera le prochain jeu. Et à mon avis, il est en phase de test parce que on l'aperçoit sur leur site. On ne peut pas jouer tout de suite. C'est Cœur de Dragon qui est un jeu de cartes pour 2 joueurs. De Rudiger Dorn qui est alors j'ai jamais joué à celui-là mais a priori il a une très bonne presse auprès des joueurs. Je manquerai pas de lui donner un essai dès qu'il sera disponible.
Ok,
c'est bien.
Très bien.
Tu nous as préparé quelque chose, Olivier?
Non, ça te...
Bah, tu voulais nous parler un petit peu de Calus?
Non, je vais pas parler de Calus, non.
Ah bon.
Enfin, je sais que Calus bon, comme ouais. Olympos sont en préparation.
Alors voilà, donc Calus il arrive sur iPad en janvier sans
ouais,
doute.
C'est ça.
On vous en parlera très rapidement. Pour l'instant, on a juste des petits visuels, ça fait envie. Et puisqu'on reste chez Hystari, avant de parler de Olympos sur iPad, il vient déjà d'arriver jouable en ligne sur JSP Mag. Dis donc, c'est un numéro écran très orienté jeu dans les navigateurs. Et puis, parce que on sort des fêtes, tout ça, si vous avez envie, vous avez eu un iPad ou bien vous cherchez un cadeau à acheter pour utiliser vos étrennes, tout ça. J'ai un merveilleux article qui va mettre en valeur votre iPad. C'est iCad.
Oui, oui.
C'est le iCad, on vous mettra le lien parce qu'il faut absolument aller voir ça. C'est une petite, ça fait une mini bande d'arcade en fait avec votre iPad. Donc ça comporte le socle qui va bien encadrer votre iPad. Vraiment style look, les bandes d'arcade des années 80-90.
C'est peut-être une colle, mais est-ce qu'elle est un petit peu lourde quand même?
Ah, c'est une colle. Je sais pas. Elle
est, si c'est du carton pâte, ça va pas être terrible.
À ce prix-là, j'espère que c'est un peu mieux, du carton pâte. Faudra regarder, parce que c'est pas très gros, hein, en tout cas.
Ouais, mais une bonne manette.
Il y a une manette, ouais, ça fait une manette, et puis 6 boutons, vraiment style arcade. Et ça vous permet de jouer à un certain nombre de jeux qui sont vendus sur l'Apple Store, dont notamment tous les classiques de Atari de l'époque.
Vous allez pouvoir jouer
à tous les classiques.
À Pac-Man ?
Ouais, ouais, tu peux jouer à Pac-Man, tu peux jouer à. Astéroïdes, Centipede, enfin vraiment les gros classiques, ça fait vraiment rétro gaming. Le produit. Ah oui, alors quand même pour préciser, c'est une manette, elle est en Bluetooth. Donc elle se synchronise automatiquement via le Bluetooth avec l'iPad. Elle peut. Elle nécessite 2 piles pour fonctionner, donc ça.
Quoi ?
Ouais, qui sont fournies. Bah oui, c'est en Bluetooth ta manette.
Ah oui,
il faut quand même.
Oui, voilà. Pour la manette.
Ouais, pour la manette.
Pas pour ton iPad.
Et là, en fait, j'ai regardé comment ça marchait. C'est assez simple. Et n'importe qui peut développer un jeu qui soit compatible avec l'iCad. Parce que. En fait, c'est simplement, par exemple, quand tu appuies sur un des boutons, sur les 6 boutons, il y en a un, c'est par exemple quand tu appuies, c'est l'équivalent d'envoyer le signal V à l'iPad, comme si tu mets une personne à appuyer sur la touche V de son clavier, et puis quand tu lâches le bouton, c'est comme si tu avais envoyé un T. Tu vois, c'est comme si tu jouais avec un clavier.
Oh, c'est rudimentaire.
C'est rudimentaire, mais du coup, à programmer, c'est super simple. Donc, il est très facile pour des développeurs qui font un jeu sur iPad d'en plus être compatible avec cet accessoire. C'est ce qui permet justement qu'il soit compatible déjà avec plus d'une centaine de jeux.
Pas que les grands anciens de l'arcade, alors?
Si, quasiment. Ça fait partie il y a quand même une centaine de grands anciens de l'arcade.
Ouais, d'accord, ok.
Ouais, désolé. Il y a la liste, hein. Sur leur site, ils mettent la liste des jeux compatibles. Le prix, quand même, pour vous fâcher un petit peu, c'est 100 euros.
Oui, enfin là, je crois pas qu'on nous jette des œufs en nous disant « Salaud, vous nous avez fait acheter un iCad », mais...
Non, bon voilà.
Donc, en plus, ça s'importe ou pas? Parce que ça, c'est chez
oui,
nos
si, si,
amis
si, si, non, mais ils en vendaient dans les Fnac et les machins, justement. Ah. Ouais. Donc, je pense qu'on va pouvoir encore en trouver. Et, ouais, c'est 100 euros, c'est un. Bon, c'est un prix.
Ah, ouais,
un
c'est que 100 euros.
C'est que 100 euros. Non, non, je trouve que c'est un peu cher, d'autant qu'en plus, les jeux ne sont pas fournis, il faut encore les acheter en plus sur l'Apple Store.
Ouais, et puis en plus, l'arcade, elle est pas, la borne d'arcade n'est pas beaucoup plus grande que l'iPad.
Non, parce qu'en fait, tu poses ton iPad dedans. Ouais. Bah, c'est pour le poser, le mettre en valeur. Enfin, c'est, voilà. Si vous avez 100 euros, vous savez pas quoi en faire, envoyez-les à Proxy Jeux. Plutôt qu'acheter un iCad, on vous enverra une photo d'iCad.
Bon, moi, je peux même vous envoyer des jeux à la limite à la place de l'iCad.
Ouais, ouais. Plutôt que parler toujours de jeux de société sur iPad, j'ai trouvé que c'était sympa comme,
c'est vrai.
Comme petite,
c'est vrai.
Petite bécane.
Ouais, une vraie news.
Comment c'est une vraie news? Pour l'instant, il y a que moi qui parle. J'y crois pas.
Et moi, je suis en train de manger des clémentines. Et des clémentines,
ouais, ouais. Non, mais... voilà, vous voyez, c'est déjà Noël. Vous avez pas l'odeur, mais moi, en plus, j'ai l'odeur de la clémentine. Allez, puis fini les brèves. Je vais vous parler d'une nouveauté sur iPad. Il s'agit du jeu Aztec. Il est uniquement sur iPad pour l'instant. Par contre, il est disponible en français ou en anglais parce que c'est une équipe de développeurs français qui est derrière. Et il s'agit notamment de Juan Rodriguez qui est co-auteur du jeu. Il avait déjà été co-auteur d'autres jeux comme Tic Tac Boom, Bombay, Maya par exemple. Et il avait été aussi illustrateur des jeux comme l'extension de L'Appel de Toulouse, Les Années Folles ou de Rêve de Dragon. Donc tout ça, ça remonte aux années 80-90. Voilà, ils sont 7 personnes dans l'équipe. Et leur idée, ça a été de proposer... ils ne voulaient pas proposer un jeu iPad comme il y a toute la mode, effectivement, des jeux... on va dire des petits jeux vidéo qui jouent en 5 minutes tout seul, etc. Ils voulaient vraiment proposer un jeu de société, mais uniquement fait pour cette plateforme. Donc, ils nous proposent donc Aztec, la pyramide aux trois soleils. C'est un petit jeu abstrait, on va dire, qui est jouable de 2 à 4. On peut même y jouer tout seul contre une IA. L'IA, elle a d'ailleurs 3 niveaux
de difficulté,
ouais, en sachant que le niveau difficile est effectivement un niveau difficile.
Difficile.
Disons qu'on le bat pas, ouais, on le bat pas dans les premières parties, hein, va falloir s'entraîner un petit peu. Le principe du jeu, en fait, il est simple. Il y a une thématique avec les Aztèques, il faut qu'ils montent en haut de la pyramide pour calmer les dieux. Le principe, c'est qu'au départ, tous les pions sont au pied d'une pyramide à 4 côtés. Au sommet de la pyramide, il y a 3 totems, qui sont 3 têtes de totems qui sont empilées et qui vont avoir une influence au cours du jeu. À son tour de jeu, on a 4 actions pour déplacer des pions sur la pyramide. Les pions, ils peuvent monter d'un cran sur la pyramide, maximum d'un cran, ou ils peuvent se déplacer sur les côtés. À la fin de son tour, on regarde si les pions sont disposés en triangle, ça marque un certain nombre de points. Mieux si en plus le triangle est appuyé sur des pions adverses.
Mmh.
Et ensuite, on va devoir faire pivoter un des éléments du totem. Il se trouve ensuite que s'il y a 2 ou 3 des éléments du totem qui sont alignés, ils vont repousser des pions qui sont en train de monter sur la pyramide. Et ça rapporte des points. À chaque tour, on additionne les points. Le premier qui arrive à amener un pion au sommet de la pyramide marque 30 points. Et c'est la fin de la partie. C'est instantané. La fin de partie instantanée. Le joueur ne finit même pas son tour. Et du coup, le joueur qui a le plus de points gagne la partie. Donc le jeu de société, la règle est assez simple. Elle est simple, mais... Pour autant, on se pose quand même pas mal de questions au départ pour savoir comment on compte les points avec les totems. C'est peut-être la partie un petit peu la plus complexe en fonction s'il y a 1 ou 2 ou 3 éléments du totem alignés. Ils n'ont pas les mêmes effets et ils ne marquent pas de la même façon les points. Donc c'est peut-être un petit peu complexe, surtout que je trouve la règle est peu précise sur l'information. Pour apprendre la règle, il y a 2 façons. Il y a un tutoriel, entre guillemets, un tutoriel, c'est 4 slides qu'on fait passer qui nous dit rapidement ce qu'on peut faire, ou alors on peut lire la vraie règle comme on lirait un livret d'un jeu traditionnel.
Bon, c'est pas aussi approfondi que les derniers jeux auxquels on a eu droit.
Ouais, c'est
comme
ça. On n'est pas du tout au niveau des tutoriels de Lien Interdit ou Euphrate et Tigris, exactement. Et du coup, je vous conseille plutôt de lire la règle complète.
D'accord.
Au niveau de la réalisation, le jeu, alors moi je pense que c'est pas fait en natif, parce que s'il y a de la 3D et quand on fait bouger l'iPad, ça fait bouger la perspective de la pyramide, mais ça n'apporte rien au jeu. Et je trouve qu'il y a il y a un décalage entre le moment où on sélectionne le pion et on veut le déplacer, etc. C'est pas très gênant, mais ça se ressent quand même, surtout qu'on est habitué avec les iPads à avoir des jeux qui répondent vraiment au doigt et à l'œil.
Oui, mais on n'est pas habitué justement à avoir cette
3D. Voilà, t'as une petite latence, ouais, il y a la 3D, mais c'est pas... Ouais, je trouve le jeu, les pions, la pyramide encore c'est pas mal, il y a les effets de lumière, etc. Mais les pions, je les trouve assez basiques dans le design.
D'accord.
Voilà. Après, c'est un jeu de stratégie abstrait, donc il faut aimer. J'ai pas assez joué pour donner un avis définitif sur l'intérêt de la règle du jeu. Moi, ce que j'aime saluer, c'est par contre c'est l'initiative. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir le jeu, c'est vrai qu'il se prêtait peut-être pas bien à être sorti en version plateau, celui-là. Par contre, c'est une bonne idée de sortir du coup le jeu directement en version iPad. Et je pense qu'on en verra de plus en plus des jeux qui vont...
qui sont spécialement faits pour l'iPad.
Ouais, qui vont, voilà, qui sortiront pas en version plateau, qui sortiront directement sur iPad. Donc, Aztec, c'est en français et en anglais. C'est vendu 3,99€ sur l'Apple Store.
Ah, en ce moment, à 79 centimes en HD. Oui, monsieur.
Aztec ?
Ouais.
Mais est-ce que ça marchera encore quand...
Ben, je sais pas. Allez-y voir. Et si c'est à 79 centimes, vous pouvez essayer sans trop de risques.
79 centimes, ça vaut le coup.
Ben voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et même notre podcast, puisque c'est le dernier de l'année 2011. Donc, écoutez, merci. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivis cette année entière, qui ont laissé des commentaires sur notre site, qui ont échangé avec nous, parce que c'était super agréable, c'est super agréable d'avoir un retour de votre part. Merci beaucoup encore une fois à ceux qui ont laissé, enfin qui en plus des réponses pour le concours, on nous a mis un petit mot, parce que ça aussi c'était super sympa. Merci beaucoup à ceux qui nous laissent un message sur iTunes et une note.
Et merci à ceux qui vont le faire juste après ce podcast.
Et merci à ceux qui le feront également. Le concours Steam Torpedo, c'est fini. Le concours
Rallyman 2012
va commencer la semaine prochaine, donc stay tuned. Il va durer comme le précédent 3 semaines, donc on verra. Putain, il faut qu'on pense un petit peu à ce qu'on va vous... Dans quel piège on veut vous faire tomber.
Ouais, pas de problème.
Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année si vous nous écoutez avant Noël. Et puis de toute façon, il y a toujours... des repas et d'autres soirées. Bonne fête de Nouvel An. J'espère qu'il sera très ludique et que vous pourrez jouer pour le Nouvel An. Et puis, d'avance, je vous souhaite une excellente... Non, on ne souhaite pas l'année, une bonne année en avance.
Si, si, ça tu peux.
Et une excellente année 2012 pour ceux qui entendront ce message, soit un tout petit peu avant, soit tout un petit peu après. On renouvellera, je pense, nos voeux, mais pour le coup, je vous souhaite une excellente année 2012.
Je vais rien ajouter, Olivier a tout dit.
Tu te joins à moi.
Voilà. Mais ce message, on dirait que ça y est, c'est fini, mais pas du tout. Dès dans 2 semaines, dès le 2 janvier, nous, on rempile.
On attaque.
Et je pense qu'on fera une rétrospective de l'année 2011.
C'est possible.
Parce que voilà, on sera un peu déphasé. Hein, parce que...
non, et puis...
ça va être un petit peu délicat après, juste avoir fêté le premier.
Mais... et puis, entre-temps, normalement, vous êtes en train d'écouter le dossier de Mignon. J'espère qu'il vous a plu. On essaiera de vous faire... à peu près la même chose pour le GCE du Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas si je serai aussi brillant que Jérémy sur ce coup-là.
Merci.
Et voilà. Alors, bonne fête. Finissez bien l'année. Bonne fête de fin d'année. Et puis, en attendant, jouez bien.
Non.
Si, si.
Ce soir, je boude.
Non, parle pas trop fort, ou alors je te descends. Je vais être obligé de te descendre. J'ai perdu complètement du catalogue. Du catalogue. Autre sujet de un peu récurrent dans notre podcast. Un peu.
N'hésitez pas.
N'hésitez pas. Ça permet d'aider aussi des gens qui ont des projets, donc c'est super bien. Par contre, sachez que vous, malgré la différence entre le franc et le dollar...
Alors... Donc Ludic Bazar, putain, je vais pas y arriver.
Ah, toi non plus ?
Non, moi non plus, j'y arrive plus. Ça fait 20 minutes que je parle plus.
et donc, c'est...
Ah bah bien, il nous fait l'adolescent maintenant.